Le journal de Radio 1 et Thiers FM, il est midi, on va parler cuisine avec les célébrations au lycée hôtelier et la présentation de recettes, on parle aussi de sport. Mais avant tout ça, on s'intéresse à des décisions de justice. Et le journal, c'est d'ailleurs avec Valdemar Delage. Rebonjour Valdemar.
Rebonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
On l'a dit, on commence par de la justice et ce sursis prononcé contre Yann Jambé.
Oui, d'après nos confrères de Tahiti Info, l'ancien directeur de l'OPH qui avait démissionné en septembre, 15 jours après une entrée en fonction polémique, il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis au pénal pour abus de confiance. Il avait déjà été condamné au civil en 2022 dans une affaire qui l'opposait à deux sociétés de Imagine Promotion après avoir reconnu le détournement de prêts de 6 millions de francs en imitant une signature. Au moment de sa nomination à l'OPH, l'opposition comme la majorité Tavini avait mis la pression sur Moët Taibbi-Rozerson.
Justice encore, Pascal Haïti condamné à 3 ans d'inéligibilité.
Oui, en cour d'appel hier, l'élu de l'Assemblée a vu sa peine alourdie dans l'affaire du faux bail de Cardella. Vous savez, dans l'inscription frauduleuse sur les listes électorales de Papété. Elle est aujourd'hui la seule représentante du Amuitaira assiégée à l'Assemblée au sein du groupe rouge. Un mandat qu'elle pourrait donc perdre. Sa remplaçante, suivante dans sa section des îles du vent au territorial serait alors Sylvana Pouettini. A noter que dans cette affaire, Gaston Flosse, lui, a vu sa peine de 9 mois de prison avec sursis et les 5 ans d'inéligibilité confirmés. Le couple va se pourvoir en cassation.
On relaye aussi cette lettre ouverte de la CPME au sujet des attaques de chiens.
Le syndicat patronal demande aux Sarria, aux communes et au gouvernement de prendre des mesures rapides et concrètes pour résoudre ce qu'ils jugent comme une crise au vu des différentes attaques qui ont eu lieu ces derniers mois et ce pour maintenir la réputation de la Polynésie française comme une destination touristique sûre et accueillante.
Tu nous en parlais ce matin, Valdemar, il y a du nouveau sur le marché du mobile.
Oui, à partir du 1er septembre, il sera possible de changer gratuitement d'opérateur en gardant tout son numéro, y compris le 87, 88 ou 89, car le pays a fini par publier l'arrêté qui fixe les modalités de cette petite révolution qui devrait fluidifier le marché. C'est ce qu'attendait depuis près de 4 ans déjà Viti, l'opérateur d'Ora Mobile, le petit poussé du marché. Dès ses premiers pas, la société avait demandé l'application de cette portabilité qui fait théoriquement l'objet d'une loi du pays depuis 2013. Victoire donc pour Viti après de multiples recours. Et l'avocat de la société, Maître Micou, n'a pas vraiment de doute sur les raisons de cette très longue mise en application.
Le pays a traîné, on sait très bien pourquoi, parce que la portabilité, ça ne fait pas le jeu de l'opérateur historique, l'opérateur public. Viti, quand il est arrivé sur le marché de la téléphonie mobile, a énormément fait bouger le secteur de la téléphonie mobile. Et depuis 2020-21, Viti ne cesse de demander au pays de mettre en œuvre les dispositions réglementaire. L'arrêté qui a été publié le 15 avril 2024 est donc l'aboutissement de 4 années de bataille menée par la société Viti pour parvenir à ce résultat.
Et à noter que dans une audience prévue de longue date, Viti a obtenu mardi au tribunal administratif le versement par le pays de 11,8 millions de francs qui correspondent à des astreintes depuis début janvier, la date théorique à laquelle le pays aurait dû faire appliquer la loi selon une précédente décision du tribunal. Avec la publication de l'arrêté, les 3 concurrents présents sur le marché ont désormais 4 mois et demi pour appliquer la portabilité. Pour Viti, la date du 1er septembre sonnera donc comme celle d'une petite révolution car beaucoup de clients étaient jusque-là retenus chez leur opérateur par leur numéro historique.
Le problème, si je vais chez l'autre opérateur, c'est que je vais perdre mon numéro historique sous lequel tout le monde me connaît dans ma sphère personnelle ou dans ma sphère professionnelle. Et du coup, finalement, même si je dois payer plus cher chez mon opérateur actuel, je préfère rester chez lui parce que je peux garder mon numéro. Grâce à la portabilité, maintenant, on va lever cette barrière. Et donc, la portabilité, c'est justement un moyen de développer la vraie concurrence entre tous les opérateurs.
Voilà, vous avez entendu l'avocat de Viti, Maître Micou, il était au micro de Charlie René.
Deux Polynésiens s'apprêtent à vivre une aventure olympique.
Raphaël Dubois, 22 ans et tout, Teuaura Teihoari, 19 ans, vont vivre une aventure commune dans moins d'un mois, un service civique Génération 2024. Ils font partie des quelques 500 volontaires retenus pour venir en soutien aux agents de la capitale française. Pour le moment, ils connaissent les grandes lignes de leur mission à Paris, animer l'espace, accueillir, accompagner, mais aussi orienter le public. Des tâches qui n'effraient pas Teaura, employé à l'aéroport de Tahiti, qui a postulé sans forcément s'attendre à être retenu. Diplômée en gestion des administrations, elle explique ne pas connaître tout du monde du sport, mais qu'importe, pour elle, chaque personne a ses atouts.
C'est quelque chose que je ne connais pas, et comme c'est en relation avec le sport, et quand ils ont dit qu'on va devoir tenir des stands, pas laver des gens et tout, ça colle un peu avec ce que j'ai fait dans ma scolarité, que j'ai eu l'occasion de donner des coachings et tout, donc parler avec des gens, ça me gêne pas en fait. Je pense que le fait que j'ai déjà tous mes papiers en France et tout, ça peut jouer aussi.
Voilà, vous avez entendu Raphaël qui est originaire de Veirao et qui connaît déjà très bien la capitale française où il s'est entraîné pendant près de 2 ans au sein du MMA Factory. De retour au Fénois depuis peu, il espère que cette expérience au-delà des frontières polynésiennes lui permettra de nouer des liens avec le monde sportif, mais prend surtout cela comme une aventure enrichissante. Une aventure enrichissante donc aussi pour Teo Aura.
Les Jeux Olympiques, ou du moins le service civique qui nous attend, c'est pas que du sport, puisqu'ils attendent quand même de nous de faire de la prospection, d'accueillir, d'être proche de la personne. Donc je pense que c'est quelque chose qui serait complémentaire au sport, c'est-à-dire notre personnalité, notre façon de travailler. Mais de là à avoir des compétences dans le domaine du sport, je pense pas que ça soit vraiment important pour ce qu'on va faire, pour ce qui nous attend à Paris.
Voilà, les deux Polynésiens s'envoleront donc pour Paris à la fin du mois d'avril pour une mission indemnisée de 6 mois. Selon le Haussaria, ils sont les deux seuls jeunes des Outre-mer à avoir été retenus. Une manière certainement de faire écho à l'épreuve de surf qui, vous le savez bien sûr, aura lieu à Tehuapo en juillet prochain.
Et on parle des Jeux du Pacifique.
Oui, la visite continue pour le Conseil des Jeux du Pacifique. Elle continue, elle se terminera ce soir pour Vidya Lakhan, le président de cet organisme qui est propriétaire de l'événement. Accompagné de son directeur exécutif Andrew Midog, ils ont enchaîné les rencontres et visite de site depuis mercredi, comme il l'avait fait en septembre. Ils se disent aujourd'hui satisfaits du travail déjà effectué par le COPF et le comité d'organisation qui a été créé. Un comité qui vient de se trouver, en plus de sa présidente Noéline Parker, un directeur général en la personne de Steve Raoult, qui a donc notamment officié à l'UPJ. Les deux représentants sont surtout rassurés de l'implication du gouvernement, qui n'était visiblement pas entièrement clair lors de la dernière visite en septembre. Le PGC a en échange assuré qu'il essaierait de contenir le nombre d'athlètes et d'officiers à 4500 contre plus de 5000 au Salomon lors des derniers Jeux, et ce pour assurer des épreuves plus simples à organiser. À plus de 3 ans de l'événement, il reste des doutes sur l'organisation, bien sûr, notamment sur le site de natation. Mais les études de faisabilité sur le site de Tiperui à côté de la piscine doivent être rendues ce vendredi. Le Pacific Game Council reviendra en septembre prochain. Il demande d'ici là des engagements précis sur les budgets de ces Jeux, des avancées sur les sponsors, sur les partenaires financiers importants ou encore sur la couverture audiovisuelle de l'événement.
Le lycée hôtelier est en fête.
Oui Damien, ou plutôt l'école hôtelière de Tahiti, puisque l'établissement a été rebaptisé ce matin pour son 20e anniversaire. Pour l'occasion, autorités du pays, de l'État, mais aussi professionnels du tourisme ont été invités à célébrer l'événement dans la cour de l'école. Un changement de nom sur le papier et sur le panneau qui marque surtout la volonté de co-former les élèves avec les professionnels en leur apportant les connaissances théoriques et pratiques tout en leur permettant d'avoir un accès au terrain. Objectif, l'excellence. C'est ce qu'expliquait ce matin le proviseur qui a insisté sur la nécessité de voire augmenter les partenariats entre l'école et les professionnels. Une intention partagée par les spécialistes du secteur comme Thierry Buteau, directeur général de South Pacific Management.
Pour que les élèves progressent, il faut qu'ils soient immergés également dans le bain, c'est-à-dire se retrouver en contact avec les collègues, mais aussi avec, bien sûr, les clients. Parce que notre fonction, c'est de servir des clients, c'est une industrie de service, et donc c'est ça qui est primordial. Et puis, c'est aussi une façon pour les hôteliers d'exprimer leurs besoins. Nous sommes en Polynésie avec de nombreux besoins en main-d'œuvre formée, qui est aussi bien ici à Tahiti que dans les îles, bien sûr.
Et toujours dans le but de tendre vers cette professionnalisation des élèves, le lycée hôtelier a aussi procédé à l'inauguration de son food truck. D'après le proviseur, il s'agit de la première roulotte acquise par une école hôtelière française. En plus de sa visée éducative, elle a aussi un objectif culturel. Écoutez.
C'est la particularité aussi de la Polynésie. Hein. Les food trucks sont très réputés et donc c'est aussi un outil d'insertion professionnelle que nous souhaitons mettre en place. En tout cas, on est là pour les former et les accompagner. En tout cas, nous espérons, voilà, dans les années à venir, avoir des jeunes du lycée hôtelier propriétaires de leur food truck. La partie culturelle est aussi inscrite dans le projet pédagogique de food truck. Il y a un cahier des charges qui délimite en tout cas les normes des produits. Ce sont des produits uniquement locaux qu'on va valoriser, proposés par les élèves donc à travers ce food truck.
Pépin Moukamtse, le proviseur de l'école, au micro de Vaitiare Perer. A noter enfin qu'une esplanade culturelle baptisée Tepepe Avaitoato a été inaugurée il y a à peine une demi-heure à l'entrée de l'école. Elle servira au moins 2 fois par an aux célébrations des Pléiades.
Et on ouvre 1000 livres de cuisine.
Flexifood 2, il est signé Valérie Muller pour les textes et Annabelle Montenot-Robert pour les photos. C'est édité par Au Vent des Îles. On y retrouve 120 recettes présentées comme saines et gourmandes. Alors le premier tome était sorti en 2019 et déjà elles avaient et a bien l'intention de réitérer l'aventure. C'est donc chose faite avec ce deuxième opus que l'on trouve dans toutes les librairies. Pour l'autrice Valérie Muller, cette envie de manger sain est arrivée avec la maladie, une opération d'urgence qui l'a poussée à changer son comportement alimentaire.
En fait, je me suis fait opérer un peu en urgence de ma vésicule biliaire qui était dans un état déplorable. C'était moi-même qui m'étais créé le dysfonctionnement de ma vésicule par une alimentation inappropriée, par des régimes yo-yo, par plein de comportements vraiment pas top. Quand mon chirurgien m'a dit « c'est toi qui t'es rendu malade par ton comportement », ça m'a fait un choc. Et donc je me suis dit « si on peut se mettre dans le rouge, on peut peut-être se remettre dans le vert ».
Et après avoir fait des recherches et essayé différents régimes, Valérie Muller a trouvé sa bonne recette, le flexitarisme, une sorte de régime semi-végétarien où l'on réduit les proportions et les fréquences de consommation de poissons et de viande. Passionnée de cuisine, elle a donc écrit ses recettes au fil de ses essais culinaires et en a donc sélectionné 120. Elles sont réparties en 6 chapitres, l'apéro, les starters, les salades, les plats principaux, les accompagnements et les sauces, et enfin les desserts. Et entre les recettes, le livre est enrichi par des dossiers sur l'alcool, l'appétit, l'inflammation, l'abondance ou le sucre. L'intention de Valérie est de mettre en avant une alimentation anti-inflammatoire pour prévenir le risque de maladies comme l'obésité, les cancers ou les pathologies auto-immunes.
C'est du bon sens. On sait quand même que les produits animaux sont pro-inflammatoires. On sait aussi que les céréales sont pro-inflammatoires. On s'accorde à dire qu'une alimentation dite anti-inflammatoire se tourne vers plus de végétales, évidemment. Donc plus de fruits, plus de légumes, moins de céréales. Aucun produit transformé, ça va de soi, mais ça c'est la base. Rien d'hyper transformé, donc tout ce qui est farine très blanche, sucre très blanc, tout ça c'est à bannir.
Voilà, de prochains ouvrages sont en préparation. Ils sont sans doute plus courts et sur des thèmes précis. C'est ce que précisent les autrices qui sont en dédicace demain de 9h à midi. Et ça se passe chez Odyssée. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Prochain point avec l'actualité, le dernier de la semaine, ce sera le flash de 16h.
Un journal qui donne l'appétit en tout cas. Merci beaucoup Valdemar. On poursuit avec la météo.